L'envie de faire cet épisode aurait pu naître de la gigantesque panne informatique la plus massive de l'histoire, dit-on, qui a eu lieu avant l'été, donc ces milliers d'ordinateurs qui sont tombés en rade à cause d'un bug survenu après la mise à jour d'un logiciel de sécurité, ça aurait pu être ça. Mais non, en fait, tout part d'une coïncidence beaucoup plus anecdotique. Un matin, comme presque tous les matins, j'étais sur la ligne 14 du métro parisien qui a la particularité d'être automatique. Tout se passait comme d'habitude. Les gens étaient pour la plupart sur leur téléphone, à écouter de la musique, à regarder une série, à jouer, à lire le journal, à scroller dans Instagram ou je ne sais quoi encore. Un peu avant la station Châtelet, le métro a commencé à avancer par soubresauts. Il s'arrêtait, il redémarrait. Bon, c'était bizarre, mais personne n'a vraiment levé le nez. Et puis, une fois arrivé à Châtelet, la rame s'est immobilisée, mais les portes ne sont pas ouvertes. Ça a duré une minute ou deux. Et puis, brutalement, le métro a redémarré sans que les portes ne se soient ouvertes. Alors là, dans la stupéfaction des passagers qui seraient descendus à Châtelet, eh ben, le métro a filé vers la gare de Lyon à une vitesse qui nous a semblé, je ne sais pas pourquoi, assez inhabituelle. Alors là, les gens, ils ont tous levé les yeux de leur téléphone. On s'est regardé, sans échanger un mot, mais je pense qu'on se disait tous la même chose. Qu'est-ce qui se passe ? Merde. En plus, on peut prévenir personne parce que qui sait ce qui se passe puisqu'il n'y a pas de conducteur ?
Xavier Delaporte.
Est-ce que c'est un bug ? Ah, le métro s'est fait hacker. On va nous projeter à pleine vitesse contre la rame précédente, mais comme dans un film de série B, c'est vraiment con de mourir comme ça.
Le code a changé.
Ce qui est marrant dans cette histoire, et qui justifie que je la raconte parce que sinon, en elle-même, elle casse pas trois pattes à un canard. Donc ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que dans cette rame de métro, eh ben, j'étais justement en train de lire un livre qui s'intitule « Éloge du bug ». Déjà, c'est une étrange coïncidence. D'autant que l'auteur de ce livre, Marcello Vitali Rossati, un philosophe italien qui enseigne à Montréal, eh ben, il vante les mérites de ce type de moments. Ces moments où nos machines se mettent à dysfonctionner. Lui, il y voit l'occasion de renouveler notre rapport à la technologie. Alors, quand quelques semaines plus tard, on s'est retrouvés tous les deux avec Marcello dans le studio pour discuter de son éloge du bug, que, en plus, on s'est rendu compte qu'il y a presque 10 ans, on avait déjà discuté à la radio de logiciels libres dont il est un grand connaisseur et auquel il avait consacré un livre. Eh ben, tenant compte de tout ça, je n'ai pas hésité, comme on le fait avec un vieux copain, à lui raconter mon histoire de métro pas ouf et à lui demander ce qu'il en pensait.
Le code a changé.
Le fait que le métro avance et s'arrête au bon endroit, que les portes s'ouvrent, etc., tout ça, c'est le résultat d'un mécanisme très complexe et très délicat. Et en fait, nous sommes tellement habitués que nous ne le voyons plus. C'est comme si c'était normal. C'est comme s'il n'y avait pas d'enjeu, du coup. Cette espèce d'explosion du dysfonctionnement nous laisse bouche bée et du coup, nous sommes obligés de faire autre chose. Et c'est ça qui est intéressant du dysfonctionnement, c'est qu'il oblige à une réaction autre. Dans les cas du métro cassé, déjà s'interroger, peut-être avoir peur, peut-être discuter avec les autres. Mais en tout cas, on commence à voir quelque chose qui était invisible. L'exemple typique de Heidegger sur ça, hein, c'est les marteaux. Donc pendant que je suis en train de marteler, je ne vois pas les marteaux. Quand est-ce que je vois le marteau ? Quand est-ce que le marteau m'apparaît comme devant moi, puis je peux m'interroger sur ce que c'est ? S'il se casse, s'il ne fonctionne plus.
Alors là, Marcello, il fait référence à un célèbre texte de Martin Heidegger qui apparaît, je crois, dans « Être et temps ». Bon, c'est un de ses livres les plus importants. Et là, le philosophe allemand, parmi 1000 autres trucs, explique en effet que quand un outil fonctionne bien, il se fond dans l'activité et il devient presque invisible à notre conscience, ce qui nous permet de nous concentrer sur la tâche à accomplir plutôt que sur l'outil lui-même. Et du coup, quand il dysfonctionne, cet outil, eh ben c'est là qu'il nous apparaît. Ça me donne un peu envie de me mettre à Heidegger, que je connais vraiment très mal, mais je sais pas pourquoi, outre ses acquaintances nazies, hein, il m'a toujours un peu déprimé, Heidegger.
Das Verhältnis des Menschen zur Sprache ist in einer Wandlung begriffen, deren Tragweite wir noch nicht ermessen. Der Verlauf dieser Wandlung lässt sich auch nicht unmittelbar aufhalten. Er geht überdies in der größten Stille vor sich.
Bon, Marcello, il me donne envie d'aller y plonger. Parce que c'est très intéressant cette question de la transparence de l'objet technique, de l'objet qui n'apparaît que quand il dysfonctionne. Mais ça pose une question. Quel intérêt y a-t-il à voir ce qui est invisible ? Parce que moi, je trouve ça plutôt assez pratique que le métro ou mon ordi fonctionne correctement sans que j'aie à y réfléchir.
Effectivement, si l'ensemble des appareils techniques montraient leur fonctionnement, ce serait presque impossible de faire quoi que ce soit. Le problème donc arrive le moment où les fonctionnements sont tellement acquis qu'il n'y a même pas la possibilité de s'interroger sur ce qui est en train d'arriver. Et donc, en fait, on n'a plus la possibilité de s'interroger sur ce que nous sommes en train de faire. Les dysfonctionnements, pourquoi c'est intéressant ? Parce que du coup, il nous fait comprendre que ce qui a été naturalisé n'est pas naturel. Alors, quel est le problème de la naturalisation ? C'est que si quelque chose est naturel, évidemment, il ne peut qu'être comme ça. La nature est invoquée justement pour appuyer quelque chose qui ne peut pas être autrement, donc qui ne peut pas être questionné. Et les dysfonctionnements nous font voir qu'il n'y a pas de nature derrière, mais donc que ça pourrait être autrement.
Bon, certes, la différence entre un marteau et mon bras, par exemple, c'est que mon bras m'a été donné naturellement et il peut difficilement être autre qu'il n'est. Alors qu'un marteau, il pourrait être autrement. Et d'ailleurs, même si je suis nul en bricolage, je sais qu'il existe différents types, différentes sortes de marteaux. Mais j'ai du mal, quand même, à considérer que la naturalisation du marteau soit un problème majeur de l'humanité. Donc, je demande à Marcello quel type d'appareil technique, comme il dit, lui fait redouter la naturalisation.
Par exemple, certaines applications. Le fait que tout le monde utilise Google Maps, par exemple, là, à mon avis, on commence à voir qu'il y a un problème. On utilise Google Maps et on commence à croire que c'est simplement une façon naturelle, neutre, de naviguer dans l'espace ou de se repérer dans l'espace. Ce n'est pas un jugement contre Google Maps ou contre la technologie. Le problème, à mon avis, est qu'on ne se rend pas compte du fait que Google Maps est une manière de faire fonctionner quelque chose. Il implémente et il incarne une vision du monde. Exactement comme les métros, c'est la même chose. Pourquoi les métros s'ouvrent, s'ouvrent pas, il va à cette vitesse, etc. Ça ne va pas de soi, ce n'est pas la seule manière pour le faire. Il y en aurait plein d'autres. On en choisit une. Très bien, évidemment, on doit en choisir une. Mais est-ce qu'on est capable de savoir pourquoi on a choisi celle-là ? Google Search, les moteurs de recherche, les résultats les plus pertinents. Selon quels critères ? En fait, selon des critères spécifique. Le problème n'est pas de savoir si le moteur de recherche est plus ou moins performant. Il est de savoir c'est quoi la pertinence selon ce moteur de recherche. Alors, ce qui me fait peur, c'est qu'on croit qu'une application, une société a la seule solution à tous les problèmes et qu'on ne voit même plus que nous sommes en train d'effectuer un choix et que ce choix pourrait être différent.
Ok, donc on n'interroge plus les spécificités de l'outil auquel on a recours, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai d'ailleurs pour plein de trucs dans nos vies numériques. Hein. Par exemple, moi je suis fasciné par la vitesse à laquelle on s'est fait au infinite scroll, le scroll infini. La vitesse à laquelle on s'est habitué à faire défiler à l'infini des contenus. Parce que si on y réfléchit bien, c'est une expérience super incongrue pour nous, l'infini. En matière de consommation, hein, tout a une fin. Puis, quand on bouffe, quand on lit un livre, un film, même une série, ça a une fin. Mais pas mon fil TikTok. Ça devrait nous interroger. Ben non, non, ça ne nous interroge pas. Ça nous semble maintenant naturel. Et je pourrais donner 10 000 autres exemples. Hein. Mais comme nous invite à le penser Heidegger, hein, c'est pas du tout spécifique au numérique. Beaucoup de nos outils techniques résultent de choix qu'on n'interroge plus. Pourquoi on tourne un volant, par exemple ? Alors qu'aujourd'hui, un volant de bagnole n'actionne plus rien de mécanique. Enfin, il transmet juste un signal informatique. On pourrait légitimement se poser la question de savoir pourquoi on a encore des volants. Et même, prenons un outil technique plus ancien, le livre. Je parle du livre parce que Marcello, c'est un spécialiste de l'édition numérique, donc il connaît très bien le livre et son histoire. On sait bien que les livres n'ont pas toujours ressemblé à ce à quoi ils ressemblent aujourd'hui. Il y a eu le rouleau, il y a eu le volumen, le codex. En fait, c'est qu'après une longue évolution que le livre est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui. Ça nous paraît parfaitement naturel qu'un livre soit comme ça. Alors que, en fait, il aurait pu être autre chose, et il l'a été d'ailleurs. D'où ma question. Pourquoi Marcello est-il plus inquiet de la naturalisation de nos outils numériques que de la naturalisation d'un outil technique comme le livre ?
C'est vrai. tu as raison. Il y a cependant des différences importantes à mon avis. J'en identifierai fondamentalement deux. La première, c'est celle de la complexité. Le livre, il est un peu plus facile, il ne faut pas non plus penser que le livre est simple, hein, parce que loin de là, mais il est un peu plus facile d'en comprendre les spécificités techniques et donc les implications. Quand il s'agit d'une technologie numérique, le plus la technologie numérique est complexe, le moins je suis capable d'identifier quels sont les enjeux. J'ai un truc qui fait quelque chose, ce quelque chose semble être ce que je voulais, j'ai aucune idée de comment il le fait, mais je l'utilise. Si on regarde aujourd'hui un des problèmes des large language models, c'est qu'il nous donne accès à des outils et des plateformes, comme ChatGPT par exemple, dans des agents conversationnels, dont il est pratiquement impossible, même pour des personnes avec des compétences techniques un peu poussées, de saisir le fonctionnement, ne serait-ce que le fonctionnement basique. La deuxième raison, c'est la concentration des acteurs qui gèrent ces technologies. De acteurs capables de fabriquer des livres, il y en avait et il y en a, beaucoup. Hein, souvent, on me dit « Ah oui, mais tu dis que Word, c'est un problème parce que c'est une technologie propriétaire pour écrire, mais en fait, même un stylo BIC, il est propriétaire. » Oui, mais stylo BIC, on peut acheter beaucoup de marques et la compétition est large et donc aussi la différence potentielle. Ici, le problème, c'est qu'on a fondamentalement une poignée d'acteurs forts qui sont au même endroit, qui partagent les mêmes valeurs et qui possèdent la quasi-totalité de ces technologies. Et cette concentration me fait un peu peur et me semble un peu plus alarmante.
Là, je suis d'accord avec tout ce que dit Marcello au sujet de la complexité, de la centralisation des acteurs, comme différence de degré de naturalisation entre le livre et les technologies numériques. Ok, mais quelque chose me fait tiquer. Son évocation rapide de Word. Je vois pas très bien ce que ce célèbre traitement de texte de Microsoft vient faire dans cette histoire de naturalisation.
Première chose, écrire avec un ordinateur n'est pas quelque chose de naturel, loin de là. L'ordinateur est fait pour calculer. Personne n'aurait l'idée de se mettre à écrire avec une calculette. Premier effet de la naturalisation, ça nous semble évident désormais d'écrire avec un ordinateur, alors que non, pas du tout. Olivetti, par exemple, est sorti du marché parce qu'ils ont dit « Ben non, mais les gens vont écrire avec une machine à écrire. On va améliorer les machines à écrire. » Par exemple, des machines à écrire avec une mémoire et un écran. C'était quand même une bonne idée. Pourquoi besoin d'avoir des trucs qui calculent alors que moi, je veux faire du texte, hein? Donc, il y a une histoire. Et puis, pour le faire court, c'est qu'une série d'acteurs dont Microsoft identifie, c'est le besoin pour les entreprises de gérer la bureautique. Il faut écrire des lettres, il faut écrire des rapports internes, il faut écrire des ordres du jour des réunions, etc. Et tous ces documents sont les documents qu'on écrit avec la machine à écrire. Si on veut trouver un marché pour vendre des ordinateurs puis des applications, ben c'est à ces gens-là qu'il faut essayer de vendre. Donc, on leur donne la possibilité de avoir une machine à écrire dans un ordinateur et de faire la même chose qu'il faisait. Donc, en fait, de quoi on a besoin? C'est là la représentation, par exemple, les formats A4, hein, ou Letter, justement, en Amérique du Nord. Par exemple, tout le développement du VisiVig, What You See is What You Get, avec cette idée, c'est quoi que tu vois? Ben, en fait, c'est ce que l'imprimante fait. Et en fait, on naturalise ensuite ces modèles comme s'ils étaient les seuls possibles pour écrire. Mais quand j'écris un roman, ou quand j'écris une lettre d'amour, ou quand j'écris une édition critique, bah, par exemple, c'est qu'imprime mon imprimante n'a pas beaucoup de sens. Le format A4 est un des pires pour lire du texte long. C'est habitué à mal lire. On a jeté à la poubelle des compétences éditoriales et typographiques qui se sont développées pendant 5 siècles d'histoire de l'édition pour s'adapter à des documents bureautiques, comme si tout le monde ne pouvait que faire ça. Donc là, on a un modèle qui s'impose comme les seuls possibles, et qui détruit les autres. Et en fait, il n'y a aucune raison. Pourquoi?
Bah justement, pourquoi? Marcello dit qu'il n'y a aucune raison, mais c'est pas vrai. Il y a forcément des raisons qui expliquent qu'un modèle comme Word se soit imposé. D'ailleurs, j'ai pas besoin de le pousser longtemps pour qu'il en trouve au moins une.
Les 80% des technologies qui nous sont propinées fondamentalement par ces grands acteurs du numérique obéissent un seul paradigme, une vision du monde. Et en effet, cette vision, c'est laquelle bah, ce que j'appelle l'impératif fonctionnel. Il faut que ça marche. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut que ça marche? Il faut être efficace, il faut être productif, il faut finalement produire de la richesse. Ce qui me semble poser problème, ce n'est pas que quelqu'un puisse vouloir s'enrichir ou quelqu'un puisse être capitaliste. Ça serait un autre débat. Ce qui m'inquiète, c'est que on pense que la seule chose qu'on peut vouloir, c'est être capitaliste. Alors, j'aimerais des technologies qui puissent faire autre chose. J'aimerais qu'on puisse s'asseoir et se dire quels sont nos objectifs. À chaque fois que je fais quelque chose, que je puisse me demander pourquoi je vais le faire cette fois-là.
L'efficacité comme critère unique. Et une efficacité qui, au départ, ne se mesure qu'à une seule aune dans le cas de Word. L'écriture et la transmission de documents à l'intérieur de l'entreprise. Ok, la démonstration est hyper convaincante. Mais Word, même s'il a beaucoup changé, c'est un vieux truc. Et il me semble qu'on utilise plein d'outils et de services qui sont nés pour autre chose que pour garantir l'efficacité dans l'entreprise. Enfin, des services ultra populaires comme Instagram ou TikTok, pour prendre que, hein, ne sont pas nés dans l'idée d'améliorer la bureautique. Hein. Alors là, je pense piéger Marcello. Mais il me donne un exemple imparable.
Typiquement, pendant la Covid, une des caractéristiques, à mon avis, de l'adoption massive d'une série de, entre guillemets, solutions informatiques, était de ne pas se poser la question. À l'université, par exemple, il semblait évident que on devait prendre la technologie la plus simple, la plus intuitive et la plus performante. Si on demandait, mais performante pour faire quoi? Bah, en fait, la question ne s'est posée même pas. C'est pas la peine de perdre du temps, s'asseoir autour d'une table et dire, c'est quoi un cours pour toi? Est-ce que une vidéoconférence Zoom est différente d'une autre vidéoconférence, par exemple Big Blue Button ou Jitsi ou Teams ou whatever? C'est quoi que tu fais, toi, pendant tes cours? C'est quoi ton objectif?
Imparable. On l'a tous vécu. Au moment du Covid, c'est vrai, on ne s'est pas posé beaucoup de questions. De manière immédiate et massive, c'est d'ailleurs ce qui fait de la pandémie sans doute un moment exceptionnel de naturalisation, eh ben, on a pris ce qui marchait le mieux. Mais de là à dire qu'il y a des visions du monde dans les plateformes de visioconférence, peut-être que Marcello exagère un peu. Alors, comme il en a cité plusieurs, bah, je lui demande de me préciser les différences qu'il voit entre elles.
Jitsi, par exemple, a la possibilité de sélectionner la fenêtre qu'on veut regarder, ce qui est très utile, moi, je trouve, dans certaines conditions des rencontres, parce qu'il y a plusieurs personnes, je veux regarder ce que fait une personne en particulier, donc je clique sur la fenêtre où il y a plusieurs personnes qui présentent, je peux choisir. Donc, c'est beaucoup plus démocratique comme type d'organisation que Zoom, qui a été pensé fondamentalement pour des petites réunions d'entreprise, vraiment le business meeting. Et du coup, il porte des valeurs. Le problème n'est pas de dire « c'est pas bien », c'est est-ce que ces valeurs-là sont mes valeurs dans ces cas particuliers?
D'accord, mais là, j'ai deux objections. La première, il me semble qu'une des particularités des outils et services informatiques, c'est leur adaptabilité. Adaptabilité à l'évolution technique, hein, capacité de calcul, stockage, etc. Mais aussi adaptabilité aux usages. C'est pour ça qu'il y a tout le temps de nouvelles versions, avec des évolutions constantes. Coller au plus près des usages, c'est même une obsession pour ces boîtes. C'est d'ailleurs ce que me racontait Julien Lebotte dans l'épisode qu'on avait fait sur Facebook. Il expliquait, Julien, que le génie de Zuckerberg avait précisément consisté à créer des métriques ultra précises sur les usages qui, avant de récolter des données personnelles qui ont été vendues à des annonceurs, lui ont servi pour faire évoluer la plateforme selon les usages.
Il est entouré de tout un tas d'ingénieurs qui peuvent coder, etc., mais ils ne codent pas à l'aveugle. C'est-à-dire que tout ce qui est déploiement fonctionnel est corrélé soit à une demande, parce qu'ils ont vu dans les métriques d'usage qu'il y avait les internautes qui sans cesse, par exemple, cherchaient à revenir sur la page de Xavier Delaporte, et donc il s'est dit, mais il faut que je fasse quelque chose, il faut que je puisse structurer ce besoin, il faut que je puisse même développer cet appétit d'échange autour de Xavier Delaporte. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que quand, en 2006, ils ont sorti donc, le fil d'actualité, le newsfeed, les premières réactions des internautes, c'est de dire « turn this shit off ». Il faut vraiment qu'on arrête. Arrêtez-moi cette merde parce que finalement, je me rends compte que chaque fois que quelqu'un actualise son profil, ça me remonte sur ce qu'on appelle ce fil, c'est-à-dire l'apparition antéchronologique de toutes les bidouilles sur Facebook.
Sauf que Mark Zuckerberg... Qui avant n'existait pas parce qu'il fallait aller sur la page de quelqu'un pour voir ce qui s'y passait. Tandis que là, ça arrive chez vous directement.
Avant, on allait voir et désormais, en fait, c'est rendu visible. En fait, c'est une architecture de l'information, justement. Il s'est rendu compte qu'il fallait rendre visibles les désirs et les us et coutumes de chacun sur Facebook. Et donc, le fil d'actualité n'a fait que rendre tangible le fait qu'on passait son temps à aller scruter, à aller voir ce qui se passait sur le profil de son voisin. Et donc, la première réaction des internautes, ça a été de dire « Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de rendre visible, quelque part, tout ce qu'on a mis comme données sur Facebook. » Sauf que oui, mais les gens l'avaient mis librement. Enfin, ils avaient consenti à livrer leurs informations. Et donc, quelque part, les internautes se sont trouvés face à leur propre paradoxe. C'est-à-dire qu'ils étaient OK pour télécharger leurs propres informations et pour aller voir chez le voisin. Mais quand on rendait visible le fait qu'ils allaient voir chez le voisin ce qui se passait, bah, ils n'ont pas du tout apprécié.
J'adore cette histoire du fil d'actualité de Facebook parce que, pour moi, elle est l'illustration parfaite de cette adaptabilité des services numériques. Il suffit de voir la différence entre le TikTok des débuts où des jeunes se filmaient quelques secondes en train de danser et ce que c'est devenu aujourd'hui. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que ces outils évoluent très vite. Ils s'adaptent, ils mutent, parfois de manière très spectaculaire même. Et donc, je me demande si Marcello, il ne les naturalise pas un peu lui-même en considérant que l'intention qui a présidé à leur création reste toujours la même. Enfin, pour le dire autrement, c'est donc ma première objection, hein. Est-ce qu'un outil parfaitement productiviste à sa naissance, il ne peut pas changer, il ne peut pas devenir ludique, par exemple ?
C'est vrai, cependant, deux considérations. La première, la raison pour laquelle elle s'adapte, hein, c'est toujours la même, pour gagner plus d'argent. C'est qui, encore une fois, n'est pas mauvais en soi, mais qui oriente fortement. Pourquoi j'ai choisi de m'adapter de cette manière plutôt que de cette autre manière ? Ben, y a un impératif derrière. La deuxième considération, c'est que pour cette raison, il est nécessaire qu'ils aillent chercher une quantité et une uniformité d'usage. Jamais une grande entreprise de ce type fera des choix qui s'adressent à des marchés de super niche. Alors, je te fais un exemple. Alors, dans le monde de l'édition, il y a une communauté très importante, mais très minoritaire, de personnes avec des usages très complexes et très lettrés, qui sont les philologues qui font des éditions critiques. Bon, quel serait l'intérêt de Microsoft pour développer un outil qui répond en plus à des paradigmes épistémologiques très, très, très complexes et très idiosyncrasiaques? Là, je veux parler au philologue qui fait une édition d'un texte grec avec un appareil critique qui cite aussi l'arabe. Bah, en fait, c'est impossible que ce paradigme, qui est pourtant d'une richesse, d'une histoire infinie, qu'il soit représenté à l'intérieur d'une plateforme. Or, il se trouve que Robert Alessi, un chercheur au CNRS ici à Paris, a développé un paquet LaTeX qui s'appelle Ecdosis pour faire exactement ça. Évidemment, ce n'est pas possible de faire ça pour une entreprise parce que le temps que Robert a passé pour développer cet outil est immense et ne sera jamais rentable d'un point de vue capitaliste. Je ne dis pas qu'il ne faille pas parfois, on a des usages mainstream et puis il y a un marché mainstream et il est là et puis on peut s'interroger sur les raisons politiques. Mais ce qui est problématique à mon avis, c'est qu'il n'y ait que ça.
Marcello a parfaitement répondu à ma première objection. C'est vrai, même si ces outils s'adaptent, il faut s'interroger sur ce qui guide les choix de l'adaptation. Et d'ailleurs là, je repense au marteau et à la célèbre chanson de Claude François, « Si j'avais un marteau ». Parce que si on écoute bien cette chanson, on s'aperçoit que Claude François restreint les usages possibles du marteau entre la première proposition et la deuxième. Au début, il veut cogner le jour, il veut cogner la nuit, et il finit par construire une maison. C'est hyper décevant. Ouais, sauf que là, en réécoutant, je m'aperçois qu'en fait, j'avais compris de travers. En fait, il veut pas taper sur le jour et la nuit, ce qui aurait été poétique, il veut juste cogner toute la journée et toute la nuit. C'est encore plus décevant, donc je n'en parle pas à Marcello. Première objection balayée, donc. Si les services numériques évoluent, ce n'est pas toujours pour des raisons désirables. Mais du coup, j'ai une seconde objection, et qui porte d'ailleurs sur les services mainstream dont a parlé Marcello. Est-ce que les usagers ne jouent pas de cette efficacité, ou même la déjouent ? Et là, je pense à un truc que j'ai peut-être déjà raconté. Moi, je m'amuse assez souvent avec les algos des Reels d'Instagram ou des vidéos TikTok. Je m'en amuse pour les configurer le plus vite possible autour d'un sujet. J'ouvre l'appli et je me dis, bah tiens, là, dans 10 minutes, je veux voir que des vidéos de foot, que des vidéos de gens bourrés, ou alors que des vidéos de fachos. Et je sais ce qu'il faut faire, hein. Il faut rester le plus longtemps possible sur les vidéos qui sont dans les thématiques voulues. Il faut aller consulter les comptes qui les postent. Il faut éventuellement les liker. L'algo, il est tellement efficace que les propositions se resserrent très vite autour d'un sujet. Alors, mon but, il est parfois juste de me distraire, parfois de m'instruire. Mais il est aussi de perturber l'algo. Qu'il ne sache plus quelle pub me balancer, que la prochaine fois que j'ouvre l'appli, il sache plus ce que je cherche, parce que ça change tout le temps en fait ce que je cherche. Alors moi, je pensais être super malin en faisant ça. Et un jour, j'en parle à un copain qui bosse chez TikTok, il est assez haut placé, donc en gros il connaît très bien les usages de la plateforme, et il me dit « Mais t'es super naïf de penser que t'es le seul à faire ça ». En fait, jouer avec l'algo, plein de gens font ça tout le temps, et c'est d'ailleurs un problème pour nous. D'où ma deuxième objection à Marcello. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un peu plus confiance dans les usagers? Est-ce qu'il ne faudrait pas partir du fait qu'ils déjouent l'efficacité, qu'ils la tordent, qu'ils la détournent?
Je nuancerai un peu ton enthousiasme pour plusieurs raisons. Ce que tu proposes, on utilise un algorithme pour lui faire faire autre chose, pour lui faire faire ce qu'on a envie qu'il fasse. Par exemple, je veux voir des vidéos facho. Je sais comment faire croire à l'algorithme ça. Pour pouvoir les faire, il faut un niveau de littératie plutôt poussé. Ce qui me ferait dire aujourd'hui que ce n'est plus la solution, c'est que le niveau de complexité est un peu trop élevé pour que ces tactiques fonctionnent, la première. Et la deuxième, c'est que la force de réappropriation du côté des GAFAM de nos techniques est plus forte que notre capacité. C'est-à-dire que tout détournement devient un détournement systématique, qui est repris par la boîte, qui ensuite, peut-être, TikTok te proposera, du coup, t'as deux profils, facho ou pas facho, et du coup, t'auras un bouton et on aura rendu commercialisable aussi la technique.
Vu comme ça, c'est pas faux et même c'est assez déprimant. D'ailleurs, ce que je racontais tout à l'heure à propos de mon usage très malin de Instagram ou de TikTok, en fait ça marche pas. Parce que au milieu de celles que je cherche, l'algo il vient toujours me proposer des vidéos qui n'ont rien à voir avec le sujet, comme si il pressentait que je pouvais me lasser. Et ça marche parce que combien de fois j'ai été entraîné ailleurs. Et j'ai fini par passer des heures à regarder des conneries, ce qui est le but ultime de ces plateformes. Alors, comme Marcello a balayé mes objections, des objections qui, en bon réformiste que je suis, visaient à envisager que le bug n'est peut-être pas la seule solution, que Marcello exagère sans doute sa nécessité, que j'accepte de revenir au bug. Donc, revenons-y. Pourquoi, alors, Marcello considère-t-il que le bug, c'est plus efficace que tout ça?
D'abord, le bug, il casse. Et je pense que casser, c'est quelque chose de fondamental.
Allez, Italiens. toujours casser les trucs.
Faut casser quelque chose. Toujours péter. Oui, le bug a cet effet un peu radical de bloquer le flux. Et il me semble que cet arrêt est nécessaire si on veut vraiment réfléchir. Le bug est la pensée critique, est la philosophie, à mon avis.
Wow, Marcello. Comme tu y vas là. Le bug et la pensée critique, le bug et la philosophie, vraiment? Bon, moi, j'adore les théories audacieuses, mais là, c'est pas un peu exagéré? Je vois pas du tout où Marcello va chercher cette idée que la philosophie, qui, pour sa partie occidentale en tout cas, est née sous le soleil d'Athènes, quelques siècles avant Jésus-Christ, qu'est-ce que la philosophie, cette philosophie-là, a à voir avec un outil informatique qui plante? Avec un noir sur l'écran, avec une touche qui marche plus. Donc là, j'interromps aimablement Marcello et je lui demande ce qui justifie ce rapprochement acrobatique.
L'image qui me devient de plus en plus chère, je dois dire, est celle de Socrate. Socrate, il plante. Dans les Phèdres, il dit « C'est le démon qui m'empêche toujours de faire ce que je suis en train de faire. » C'est pas un truc positif, le démon. C'est juste un dysfonctionnement. Donc, la première caractéristique, c'est celle de dire « ça marche plus ». Ce fait de ne pas marcher, en plus, bloque ce qui est naturalisé au plus haut terme. C'est notre impératif productiviste qui me semble la chose la plus difficile à mettre en question. Parce que si je t'ai demandé pourquoi tu veux regarder des vidéos facho, probablement, tu as une réponse du type « Ah, parce que ça m'intéresse de comprendre ce type de discours, puis moi, je suis journaliste, il faut que je comprenne ce qui se passe, etc. » Donc, on a tous, quand on nous pose des questions de ce type, les paradigmes fonctionnels qui se mettent en tête. C'est-à-dire que jamais tu répondrais « pour perdre du temps ». Et en fait, le bug, il nous permet de dire, attends, peut-être il y a des choses pour lesquelles la question, ça sert à quoi, n'est pas la bonne. Donc, on se bloque, on s'arrête, et là, il y a quelque chose qui émerge. Ensuite, le bug permet de penser autrement, de dire, bah là, ça ne marche plus. Et puis, le bug propose d'autres pistes qui n'ont pas été pensées auparavant. Il propose d'autres actions possibles.
Pas mal, je reconnais. La réinterprétation que fait Marcello du démon Socrate comme un fonctionnement interrompu nécessaire pour penser autrement et donc comme processus fondamental de la philosophie, c'est fort. Et c'est vrai que, en allant chercher dans son livre, je retrouve la citation du Phèdre qui est assez éclairante. « Mon beau garçon », dit Socrate à Phèdre qui s'inquiète de le voir se figer un long moment avant de traverser une rivière. « Mon beau garçon, quand j'étais sur le point de traverser le fleuve, il m'est arrivé de sentir le démon et le signe familier qui m'empêchent de faire ce que j'étais sur le point de faire. » Donc ok, je veux bien que le bug soit une sorte d'interruption aux vertus philosophiques. Mais Marcello, lui, il semble aller plus loin en postulant que la philosophie est un bug.
Une bonne philosophie, à mon avis, bloque les fonctionnements, on s'arrête, on commence à réfléchir, on perd du temps, donc on perd de la richesse, on ne trouve pas des solutions, normalement, une bonne philosophie ne trouve pas des solutions, on n'est pas plus heureux, c'est pas vrai. La philosophie, c'est un bug parce qu'elle va complètement au contraire de tous les paradigmes que nous avons naturalisés, elle les questionne de façon complètement radicale. Et ça, c'est ce qui me semble une bonne promesse aujourd'hui pour le futur de la philosophie, un bon défi. Continuer à essayer de survivre de ces petits insectes, de ces petits nuisibles qui arrivent à survivre malgré le fait qu'on fasse tout pour s'en libérer.
Et d'ailleurs, en appui de sa théorie, Marcello cite dans son livre une étymologie du mot « bug » que j'ignorais complètement. Parce que bon, en termes d'étymologie, il y a celle que tout le monde connaît, celle de la légende. Le « bug » comme « insecte » en anglais, auquel Marcello d'ailleurs vient de faire référence. Bon, l'histoire, on la connaît aussi. En cherchant, dans les années 50, la cause d'une panne du Harvard Mark, qui était un des premiers ordinateurs, on retrouve un insecte qui, manifestement, a foutu en l'air le circuit électrique. Et une informaticienne présente, la très célèbre Grace Hopper, colle même cet insecte dans son journal de service qu'on peut encore consulter. Mais il semblerait que l'usage du mot « bug » pour désigner une panne technique n'ait rien à voir avec cette histoire, en fait. Il a même préexisté vraisemblablement à l'informatique. Et donc, Marcello, lui, il a son hypothèse qui est assez intrigante.
Les premiers sens, même dans des dictionnaires pas très vieux, de la fin du 19e, est « spectre ». C'est un terme qui semble venir de l'ancien gallois. Donc, c'est une créature fantastique.
Ouais. Mais donc, c'est le démon de
Et tout de à Socrate. Fait. C'est là que je me suis dit, c'est vraiment le démon de Socrate. Alors, c'est quelque chose qui fait peur, qu'on ne voit pas.
Là, j'interromps à nouveau Marcello. Bien sûr, le bug, c'est quelque chose qui fait peur. Enfin, pas seulement parce qu'on le voit pas et que du coup ça a un côté spectral, ça fait peur surtout parce que ça casse, ça bloque, ça fait perdre des données. Et il faut que je confesse là que je trouve même étonnant que Marcello consacre un livre à faire l'éloge du bug, à souhaiter un événement qui est pénible, qui peut être grave, voire dangereux. Parce que des bugs, il y en a qui font perdre de l'argent. Le célèbre flash crash de 2010 à New York, qui a fait perdre des milliards de dollars à des entreprises boursières en quelques minutes, parce que des algos de trading à haute fréquence se sont mis à faire n'importe quoi. Il y a d'autres bugs qui font perdre de l'argent, mais aussi des années de travail. Je pense à celui qui a causé le crash de la première version d'Ariane 5.
Tous les paramètres propulsifs sont normaux et la trajectoire est normale.
Et non, la trajectoire n'est plus normale. Très brutalement, Ariane 5 a commencé par s'incliner vers la gauche. La coiffe des satellites va se disloquer. L'un des boosters semble s'écarter avant d'exploser. L'officier de sauvegarde déclenche alors la destruction totale de l'engin. Une bombe de 740 tonnes. Le vol n'aura duré que 37 secondes.
Et puis, il y a des bugs dangereux ou qui peuvent être dangereux. D'ailleurs, c'est assez marrant d'aller voir ceux qui sont recensés par les propriétaires de Tesla dans YouTube.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, comme d'hab, on est dans la campagne Picard. Il m'est arrivé un petit bug, je voulais le partager avec vous. Si quelqu'un sait comment se corriger ce bug, je suis preneur. Et sinon, j'appellerai l'assistance Tesla. Allez, à tout de suite, jingle. J'entends souvent dire que la Tesla, c'est un iPad avec des roues, je suis pas vraiment OK avec ça, car la voiture qui est autour de l'iPad, elle est vachement bien. Mais de temps en temps, son iPad, ça lui arrive de planter. Là, j'écoute de la musique, je change d'album et... c'est le bug, je me retrouve sans écran. La tablette reboot. Bah, elle a décidé de me couper la musique, voilà. Et pour ceux qui découvrent la Model 3, vous pouvez constater qu'il n'y a qu'un seul écran central dans la Model 3, et donc je n'ai plus d'affichage, et notamment à quelle vitesse je roule. Je roule en aveugle.
Bon, là ça dure pas, c'est pas très grave. Mais on sait que dans de très rares cas, hein, des conducteurs de Tesla sont morts dans des accidents causés par des problèmes informatiques. Mais il y a des bugs carrément ravageurs. Dans son livre, Marcello cite une étude britannique qui estime que des bugs informatiques seraient responsables de plus de 800 morts par an dans les hôpitaux anglais. C'est énorme, 800. On comprend que ça fasse flipper, hein. D'autant plus qu'aujourd'hui, l'automatisation est devenue une règle, enfin, confère l'histoire de la ligne 14 du métro que je racontais tout à l'heure. Donc voilà, comment est-ce que Marcello peut appeler de ses voeux des événements pareils ?
Évidemment, l'idée n'est pas de faire un éloge des accidents, mais quand accident il y a, il faut s'interroger si le bug est vraiment la cause de l'accident. Souvent, les problèmes sont des problèmes structuraux beaucoup plus complexes. Qui et pourquoi prend des choix de « modernisation » entre guillemets dans un hôpital ? L'idée d'avoir naturalisé une espèce d'impératif de adoption rapide de tout, c'est cette idée de bah, « en fait, pour être bien, il faut acheter la dernière technologie ». Et en fait, le bug n'est pas le tueur. Le tueur, c'est cette rhétorique. Les tueurs, c'est un certain fonctionnement de l'hôpital, la pression commerciale sur l'entreprise qui produit les softwares, qui doit livrer rapidement, etc. Donc là, ce que révèle le bug, c'est tout un mécanisme très problématique, politiquement, éthiquement, etc., qui fait en sorte qu'ensuite, le bug peut tuer. Mais ce n'est pas les bugs qui a tué. Du coup, là aussi, même dans ces cas tragiques, le bug a la capacité de révéler quelque chose qu'on n'avait pas vu.
Décidément, il a réponse à tout, Marcello. C'est fascinant. Et en l'écoutant, je repense à un vieil épisode du Code à changer que j'avais fait avec le grand informaticien Gérard Berry, au sujet des crashs des deux Boeing 737 MAX qui avaient eu lieu à 5 mois d'intervalle, hein, en 2018 et 2019. Ils avaient tué 346 personnes, je crois. La cause, la panne de sonde qui était censée mesurer l'inclinaison de l'avion et le dysfonctionnement d'un système informatique censé le stabiliser. Et j'avais demandé à Gérard si, selon lui, c'était les programmes informatiques qui étaient en cause dans ces deux accidents. Ben, voici ce qu'il m'avait répondu.
Pas vraiment. Le système informatique fait ce qu'on lui a dit de faire et la grande cause, c'est quand même l'analyse système. C'est le principe de ce qu'on lui a dit de faire qui ne marchait pas pour tout un tas de raisons.
La suite de l'épisode, elle avait consisté à déployer ces raisons. Et ce qu'expliquait Gérard va complètement dans le sens de ce que dit Marcello. Ce qui était en cause dans ces deux crashs, c'était la raison même pour laquelle on avait installé ces systèmes de stabilisation automatique. C'est-à-dire que même si ces deux appareils étaient quasi neufs, le Boeing 737 MAX est un vieux modèle sur lequel la société américaine a installé de nouveaux moteurs, plus économiques. Mais ces moteurs, comme ils étaient plus puissants, ils déstabilisaient l'avion. Et donc, il avait fallu installer un système technique et informatique pour rééquilibrer automatiquement l'avion. Or, la plupart des pilotes n'étaient pas au courant de l'existence d'un tel système, du fait même qu'ils avaient été formés au nouveau modèle de Boeing en quelques heures et sur un iPad. Tout ça par économie encore. Et donc, quand le logiciel s'est mis à faire juste ce pourquoi il avait été fabriqué, comme dirait Gérard, mais avec des données fausses, eh ben, les deux avions se sont mis à faire n'importe quoi et les pilotes n'ont rien compris à ce qui se passait. Eh ben, cette histoire, elle illustre parfaitement ce que vient de dire Marcello. En l'occurrence, ce bug a révélé tout un tas de défaillances dont l'informatique n'est pas vraiment la cause. D'ailleurs, Boeing vient de passer un deal avec la justice américaine pour éviter le procès. Parce que ça aurait été le procès de l'entreprise entière, en fait. Ça, c'est un cas particulier. Mais de manière plus générale, est-ce que c'est ce type de révélation auquel Marcello pense quand il dit que le bug révèle quelque chose ?
Le bug nous révèle ce qu'il y a derrière le fonctionnement de quelque chose et nous oblige à nous rendre compte que ce fonctionnement est le fruit d'une série de choix qui sont orientés par des valeurs, des visions du monde, des volontés, des désirs. Et puis on s'est dit, ah bah tiens, du coup, peut-être on aurait pu vouloir que ça marche autrement. Et là, il y a une multiplicité qui s'ouvre devant nous. Et c'est cette multiplicité qui me semble fondamentale. Et puis, il nous oblige, ou au moins il nous pousse, à augmenter un peu notre littératie et notre maîtrise.
Bah oui, évidemment, parce qu'on veut comprendre comment ça marche, pourquoi ça marche comme ça, et pas autrement, comment ça pourrait marcher autrement. On s'intéresse à des détails matériels qu'on pensait triviaux, et c'est pour ça qu'on augmente notre littératie, c'est-à-dire notre compréhension des processus informatiques et de ce qui les sous-tend. Le bug a des vertus, Marcello m'a pleinement convaincu, il faut des bugs. Mais là, il y a un problème. Parce que les bugs, ça arrive. Ok, mais en fait, ça arrive pas si souvent que ça. Enfin, je parle des bugs qui peuvent vraiment nous faire réfléchir à la machine. La plupart du temps, nos outils marchent bien, même très bien, ou quand ils déconnent, ça dure 3 secondes et puis on oublie. Donc, si on veut malgré tout réfléchir à nos outils techniques, si on veut augmenter notre compréhension des enjeux, notre maîtrise, notre littératie, bah, on peut pas attendre le surgissement du bug. Enfin, il faut être un peu plus proactif. Mais alors, comment ? Comment faire pour ne pas être passif dans cette histoire ? Quand je pose la question à Marcello, il dézippe et montre... Enfin, il dézippe sa sacoche qui est sur la table et il sort son ordinateur.
Mon ordinateur que j'ai ici, hein, c'est, malheureusement, les personnes ne pourront pas le voir sur le podcast.
Mais Heureusement, parce qu'il n'est pas sublime, je suis désolé.
Alors, une des dernières fois que j'ai pris l'avion, ils m'ont arrêté au contrôle de sécurité et ils m'ont demandé de le démonter. Parce qu'en effet, ils sont plus habitués à voir ces trucs-là, surtout à un aéroport comme Montréal ou Paris. Il n'y avait que des MacBook Air qui passaient, puis les miens. Et ils m'ont dit, mais messieurs, c'est quoi ça ? Je dis, bah, c'est un ordinateur. Parce qu'ils avaient peur que ce soit une arme ou un truc. Alors oui, bah, c'est un vieil ordinateur de 2008, je pense, un ThinkPad X200, qui est un des rares ordinateurs qui peut être reconditionné en vidant de tout. Pièce propriétaire, donc tous les logiciels qui tournent dessus, y compris les BIOS, est libre. Du coup, il donne la possibilité de tout voir. Hein. Évidemment, c'est une vieille machine, elle fonctionne très bien pour faire ce que je dois faire, mais par contre, quand je vais sur certains sites, typiquement bah, les sites de la SNCF, etc., il y a tellement de JavaScript que ma machine rame. Ça révèle des choses, hein, parce que ça révèle, par exemple, un usage énorme de certaines solutions, justement, de certaines applications, typiquement les JavaScript qui tournent côté client, qui est invisible pour quelqu'un qui a le MacBook acheté hier. Et en fait, ça permet aussi de se poser la question, est-ce que c'est nécessaire ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, pour acheter un billet de train, c'est beaucoup plus lourd et beaucoup plus compliqué d'il y a 10 ans. Et en fait, à la fin, j'ai fait la même chose et peut-être moins bien. Ça permet aussi de se questionner sur qu'est-ce qui est en train de se faire ? Est-ce que c'est vrai qu'on est dans ces progrès linéaires et en fait de voir que c'est pas comme ça. Et en plus, ça permet une autre chose, ça permet justement d'aller regarder les différents composants de la technologie, que ce soit des composants matériels. Par exemple, ici, j'ai pu monter la caméra et démonter la caméra tout seul avec des vis.
Bon, quand il parle de son vieil ordi, Marcello, manifestement, il est intarissable. Tout ce qu'il raconte est passionnant. Hein. Mais là, je l'interromps sur son truc des vis. Parce que moi, je ne vois pas le kiff de démonter et remonter sa caméra. C'est quoi l'enjeu là-dedans ?
Je trouve ça un peu bizarre qu'il n'y ait pas de débat public sur le fait que nous sommes habitués à acheter des dispositifs sur lesquels nous avons de moins en moins des droits physiques. Ça, c'est vrai pour les téléphones, c'est vrai pour les voitures. Hein. Une voiture, désormais, bah, il n'y a personne, même un bon mécanicien n'a aucune idée de ce qui se passe dans l'ordinateur d'une voiture. Il peut juste brancher un iPad et puis regarder ce que son application lui dit. Ça, je trouve que c'est très problématique d'un point de vue théorique aussi. Ce n'est pas seulement le fait de dire tout logiciel propriétaire est mal ou parce qu'on ne sait pas ce qu'il fait et puis je peux ne pas avoir confiance. C'est vrai ça, mais même avant de ne pas avoir confiance, simplement le fait de dire bah, pourquoi j'ai acheté ces trucs puis je ne peux pas enlever les vis si je veux. Je ne dis pas que tout le monde doit enlever les vis, mais pourquoi je ne peux pas les faire ? Pourquoi je ne peux pas savoir ce que fait un logiciel qui tourne par défaut sur mon ordinateur ? Cette machine me permet de tout faire ça.
Alors là, je comprends pourquoi Marcello a intitulé son livre « Éloge du bug ». Eh bien, c'est une référence à un livre qui est paru en 2009, qui est devenu un classique de la littérature sur la technique, « L'éloge du carburateur » de Matthew Crawford. Dans « L'éloge du carburateur », Crawford fait l'histoire de notre déconnexion à la matérialité des objets techniques qui nous entourent. Une déconnexion qui fait qu'on ne sait plus comment marchent la plupart des machines qui nous entourent. Crawford, lui, déplore cette ignorance et la perte de pouvoir qu'elle induit. Et lui, d'ailleurs, dans le livre, il raconte comment il a quitté son poste de prof de fac pour ouvrir un magasin de réparation de motos. Éloge du carburateur, donc. Marcello, lui, bah, il est toujours prof de fac, hein, mais il a décidé qu'il voulait pouvoir trifouiller dans son principal outil de travail, qui est son ordi. Mais il a dit un truc qui m'intrigue au début de sa phrase. Il a dit qu'il n'y avait pas de débat public autour du fait qu'on achetait des outils sur lesquels on avait de moins en moins de droits et des outils qui tournent avec des logiciels qui sont propriétaires. C'est tout à fait vrai. En dehors de milieux comme celui du logiciel libre, eh ben, il n'y a pas de débat. Alors que c'est quand même un truc de dingue d'utiliser quotidiennement des logiciels qui ne nous appartiennent pas et dont les propriétaires peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. D'ailleurs, un exemple m'avait été raconté par Nicolas Taffin dans un épisode sur la typographie. Nicolas m'avait raconté comment pendant des années, hein, les gens qui utilisaient les logiciels Adobe, qui sont ultra courants dans le monde du design, de l'édition, etc., pouvaient utiliser à l'intérieur une banque de couleurs qui s'appelle Pantone. Jusqu'au jour où...
Cette année, les couleurs ont disparu des documents d'Adobe à cause de la rupture entre Pantone et Adobe. Donc quand on ouvre un vieux document où il y avait des couleurs Pantone, c'est remplacé par du noir, donc c'est caviardé par le logiciel. Donc si on a travaillé sur une collection et qu'on ouvre un truc de l'année dernière, eh bien c'est du noir et on n'a plus Pantone. Bon. Le manque de liberté, parfois, il te saute à la figure, quoi.
C'est dingue. C'est un pouvoir gigantesque des éditeurs de logiciels. Et c'est l'effet direct du fait qu'on ne soit pas propriétaire des logiciels qu'on utilise. Alors, pourquoi ça ne fait pas débat ? Pourquoi on n'en parle pas en dehors de quelques milieux ?
Parce qu'on a un peu l'impression que ce sont des choses qui ne comptent pas beaucoup. Ce que j'aime appeler le mépris pour la matérialité ou la rhétorique de l'immatériel. C'est comme ça que fonctionne le discours des GAFAM. De nous dire, finalement, ne t'inquiète pas trop des vis de ton iPhone ou du petit logiciel qui tourne derrière. Il est fait pour ton bien. Tu peux tranquillement déléguer cette chose à une entreprise qui s'en occupe, donc nous, et puis t'occuper des choses plus importantes qui sont ta pensée. Alors typiquement, hein, des politiques comme le fait de dire tu n'as plus l'accès à un administrateur à ton ordinateur, ce qui est de plus en plus le cas pour plein de dispositifs, évidemment pour les dispositifs mobiles, hein, mais aussi pour les ordinateurs, parce que comme ça, tu ne peux rien casser. Je te protège de toi, tu pourrais écrire une commande qui efface des choses que tu ne veux pas effacer, donc j'évite que tu les fasses, je ne te donne pas le droit de les faire, et il n'y a pas d'enjeu là-dedans. Mais derrière ces discours, il y a évidemment qu'on perd complètement la prise sur nos actions.
Ok, en théorie, je suis tout à fait d'accord, et je trouve tout à fait intéressant ce que dit Marcello, cette rhétorique qui nous incite à mépriser la matérialité. Mais la matérialité, ça prend un temps de maboule. Enfin, bon an mal an, ça demande pas mal de compétences d'utiliser un ordi entièrement reconditionné quand tout ce qu'il constitue, c'est-à-dire de la caméra au logiciel, est non propriétaire. Et d'ailleurs, même si ça n'est pas du tout l'intention de Marcello, hein, je trouve que ça a un côté même un peu élitiste. Donc, on se trouve face à une alternative. D'un côté, démonter et remonter son ordi, se mettre au logiciel libre, ce qui demande du temps et des compétences. De l'autre côté, espérer le bug, qu'on ne peut pas provoquer, et qui même peut être assez nuisible. Alors, est-ce que Marcello, il n'a pas quelque chose d'autre à proposer, hein ? De moins accidentel, de plus mainstream, quelque chose qu'on puisse vraiment faire, qui soit à la portée de tous ?
Tout d'abord, je garde le bug. Je pense que ce qui est nécessaire, c'est une rupture radicale du paradigme. Et cette rupture n'est pas nécessairement dans une intentionnalité humaine telle qu'on peut la désigner. Là, il y a quelque chose dans ce que tu dis, hein, de nous prenons en charge nos vies et puis nous faisons quelque chose. Je pense que cette irruption de quelque chose qui est complètement externe et pas maîtrisable, justement, est importante à garder.
Marcello allait développer un deuxième point. Mais là, je me dois de l'interrompre encore une fois. Parce que je trouve assez étonnant cet appel à quelque chose qui vienne de l'extérieur de nous, qui dépasse l'humain, qu'on ne maîtrise pas. Ça me rappelle d'ailleurs mon prof de philo en prépa qui nous disait « Le concours, c'est le doigt de Dieu ». Bon, ben moi, je trouvais ça super chelou de dire à des gens qui essayaient désespérément de préparer ce truc que le résultat dépendrait pas d'eux. Enfin, si le concours, c'est le doigt de Dieu, ben pourquoi bosser ? Alors, c'est pas exactement ce que dit Marcello. Hein. Enfin, quand même. On est en train de parler de trucs assez rationnels, là, comme la compréhension des mécanismes techniques, des enjeux qui les sous-tendent, la reprise en main sur nos outils. Et lui, il dit « Ouais, mais il faut quelque chose qui surgisse d'ailleurs ». Donc, moi, j'y objecte. Ok, pour réformer notre rapport au numérique, ce que tu veux, c'est une transcendance, qu'on attende le Messie, c'est ça ?
Ou peut-être s'interroger sur le fait que l'intentionnalité hein, et l'essence soient toujours des productions humaines et d'un individu qui pense. Assumer les bugs, c'est aussi assumer le fait que nos idées géniales, probablement, nous ne l'avons pas pensé. Elles viennent, d'ailleurs, elles viennent aussi et fondamentalement et à mon avis, principalement de la matérialité. Socrate, dans les Phèdres, justement, chaque chose qu'il dit, il explique que ce n'est pas lui. Donc il dit, ça doit être les dieux du lieu, il dit, ça doit être l'arbre, là, qui m'a suggéré quelque chose, ou bien il dit, ça doit être ce que t'as dit, Phèdre. Dans la tradition grecque classique, hein, très souvent, la pensée n'est pas quelque chose qui est produit par l'individu. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait aujourd'hui penser de façon radicale, c'est rendre compte que, par exemple, mon idée de aller manger dans ces restaurants-là, bah en fait, elle vient pas de moi. Elle vient de plein de facteurs et je ne suis pas le maître. Et donc, finalement, je vais manger au restaurant peut-être aussi à cause d'une série d'interactions technoculturelles dont fait partie la notification que j'ai eue sur mon téléphone, etc. Et donc, peut-être aussi le salut ne viendra pas forcément par une personne qui pense. Donc, je pense qu'il faut de plus en plus se questionner sur ce credo dans lequel il y a des êtres humains qui pensent et qui produisent l'essence, et puis la matière qui ne produit pas l'essence. À mon avis, c'est plutôt l'inverse, et les êtres humains sont plutôt les résultats de la matière que l'inverse, surtout parce que cette rhétorique-là de l'être humain qui pense est une rhétorique qui détermine un élitisme fort à la fin, hein, parce qu'évidemment, pas tous les êtres humains penseront au même niveau, et puis il y en aura qui penseront mieux, et puis etc.
Évidemment. Et d'ailleurs, là se pose un vieux problème que Marcello développe dans son livre, le fait que la matérialité ait longtemps été considérée comme le domaine réservé des femmes, l'esprit étant évidemment la chasse gardée des hommes. Donc, d'une certaine manière, en rappelant notre dépendance égale à la matière, eh ben, on casse cette vieille répartition des genres. Là, je comprends quelque chose. Je comprends que derrière l'éloge du bug que fait Marcello, il n'y a pas simplement une idée du rapport à la technique. Ce qui serait déjà beaucoup. Hein. Mais il y a aussi une pensée de l'humain. Que l'humain n'est pas seul, que l'esprit humain n'est pas seul, qu'il y a aussi la matière et que quelque chose pense dans ou à travers la matière. C'est intéressant que, encore une fois, Marcello en appelle à Platon et donc à une philosophie très classique pour nous aider à réfléchir à notre monde technique. En l'écoutant, je me dis que c'est étonnant à quel point nos technologies contemporaines nous amènent à repenser la place de l'humain dans le monde. Et nous rappelle que nous sommes pris dans une matérialité dont fait partie la technique. Et le bug, c'est comme une alerte qui permet ce rappel. Ce serait une belle conclusion. Mais il faut aborder un dernier problème qui me semble à la fois essentiel et très actuel. C'est l'intelligence artificielle. Parce que si tout ce que raconte Marcello sur le bug me semble parfaitement convenir à nos machines classiques, pour le dire comme ça, il me semble que ça s'applique un peu moins bien à l'IA. Bon, pour le dire vite, je me demande si l'IA, ça va pas tuer le bug. Dit comme ça, ça paraît un peu radical, mais je m'explique. Prenons une catégorie d'intelligence artificielle que sont les grands modèles de langage qui sont à la base des robots conversationnels comme ChatGPT. Évidemment, il peut y avoir plein de bugs dans les serveurs, dans les bases de données, sans doute aussi dans les programmes intermédiaires qui servent à faire marcher les modèles, etc. Ok, mais tout ça, on ne le voit pas. Ce qu'on voit, hein, nous, c'est ce que nous dit l'IA, ce qu'elle écrit, ce qu'elle donne comme réponse aux questions qu'on lui pose. Or, quand on discute avec le robot conversationnel et qu'il raconte n'importe quoi, est-ce qu'on peut considérer qu'il bug ? Eh ben, c'est pas évident. D'ailleurs, dans le jargon de l'IA, on dit pas que la machine bug à ce moment-là. On dit que la machine hallucine. C'est un terme qui m'intéresse, ça. Il est manifestement apparu il n'y a pas si longtemps dans les laboratoires de Google, on dit 2018. Et il s'est vite imposé depuis. Alors pourquoi il s'est vite imposé? À mon avis, c'est parce que quand elle écrit une suite de mots inadéquate, on ne peut pas considérer à proprement parler que la machine fait erreur. En fait, elle suit juste un processus probabiliste qui lui donne un résultat. Le résultat, il n'est pas faux, mais comme une hallucination. Une hallucination, elle n'est pas fausse pour celui qui hallucine. Et donc, je me dis, avec des modèles comme ça, il y aura des hallucinations, mais il n'y aura plus de bugs. Et pouf, toutes les vertus du bug dont Marcello a parlé, elles disparaîtront. Alors, je soumets mon hypothèse à Marcello. Mais encore une fois, et pour la dernière fois, il me retourne comme une crêpe.
Ce que tu dis ressemble un peu à cette idée de ces algorithmes-là ne seraient pas basés sur des théories. J'ai pas besoin d'une théorie, je donne des données et puis il y a quelque chose qui sort. En fait, c'est complètement faux. Il y a une théorie derrière et en fait, cette théorie est ce qui permet aussi de mettre en place des systèmes d'évaluation. Et ce que font les entreprises qui travaillent dans ce domaine, c'est tout le temps ça. Donc, on peut évaluer les capacités d'un algorithme à répondre à ce qu'on lui a dit de faire. C'est quoi, par exemple, un agent conversationnel? Un agent conversationnel, en principe, c'est un algorithme qui est capable de manipuler la langue naturelle et de la manipuler au même niveau qu'un parlant de cette langue. Ça, c'est la définition. Donc, par exemple, ça me fait beaucoup rigoler tous les articles sur le fait que ChatGPT ne donne pas des informations justes ou vraies. Évidemment, il n'est pas fait pour. C'est comme si je disais, cette voiture frite très mal les courgettes. En effet. GPT, il est fait pour quoi? Pour manipuler. Donc là, déjà, pour évaluer s'il y a un bug ou pas, il faut savoir quel était l'objectif de l'algorithme. Donc, qu'est-ce qu'on a modélisé? On a modélisé l'usage de la langue naturelle. Et là, une autre question se pose. C'est quoi la langue naturelle? Ces algorithmes-là, je ne vais pas faire l'histoire, mais après des gros échecs, disons, des systèmes experts qui étaient basés sur des théories linguistiques particulières dans les années 80, on a commencé à se dire peut-être on peut penser la langue comme un système clos, fermé, un peu comme les structuralistes, c'est-à-dire le fait de dire l'essence d'un mot ne dépend pas de sa relation avec le monde, le sens de soleil ne dépend pas de la relation entre le mot soleil puis l'étoile véritable qui est le soleil, mais ça dépend juste de la relation de ce mot-là, de cette chaîne de caractères, avec l'ensemble de la langue, l'ensemble des autres mots. Ça, c'est une idée théorique. Et cette idée-là est implémentée dans un algorithme et on peut évaluer si l'algorithme fait ou pas son travail en regardant s'il fait ce qu'on lui a demandé de faire. Sans doute, il y aura des bugs, parce que quand j'ai écrit l'algorithme, quand les personnes ont écrit l'algorithme, ils n'ont pas pensé à des choses. Peut-être on n'aura pas bien choisi les corpus, on n'a pas bien choisi les paramètres, on aura mis une condition qui fait en sorte que dans un cas particulier, etc. Même si c'est complexe, l'algorithme, même si c'est vrai qu'avec ces algorithmes-là, parfois, il est très difficile de débugger parce qu'on ne comprend plus où on en est, mais quand même, il reste que c'est quelque chose qui modélise quelque chose et qui donne des résultats par rapport à ce quelque chose qui a modélisé. Mieux, si ça ne marche pas, ça nous permet peut-être de nous poser la question, mais ça c'est une définition possible des langues. Peut-être converser peut vouloir dire d'autres choses. Du coup, je peux le modéliser autrement et du coup, je peux avoir d'autres. Donc, je pense que c'est la manière de les vendre et de les mettre dans un discours qui, en effet, rend de plus en plus difficile, typiquement pour ChatGPT, parce que personne ne sait à quoi ça sert. Et donc, en effet, je ne peux pas évaluer s'il fait bien ou mal, parce que il fait des trucs, j'ai juste les résultats. Et puis, je ne peux évidemment rien dire parce que je ne sais même pas pourquoi il a été pensé.
Décidément, il a réponse à tout, Marcello. Et cette réponse-là, je la trouve lumineuse. Pour savoir si une machine dysfonctionne, il faut savoir pour quel usage elle a été pensée. Et c'est vrai qu'on ne sait pas très bien pourquoi des IA comme ChatGPT ont été pensées. Donc, on ne sait pas très bien si elles marchent ou pas. Est-ce que leurs hallucinations peuvent être considérées comme des bugs? Oui, si on considère qu'elles doivent dire des choses vraies, solides par exemple. Et non, si on considère qu'elles doivent juste simuler le langage humain et la conversation. J'avoue que j'avais jamais vu les choses comme ça. Et d'instinct, ça m'amène à deux conclusions. La première, c'est assez flippant. Et ce serait bien qu'on soit plus au clair sur les intentions qui prévalent à la création de ces machines. Peut-être que ça se fera quand on aura des usages plus précis des IA génératives. Et ça commence d'ailleurs. Mais en attendant, on est face à des machines assez singulières. On ne sait pas vraiment si elles marchent bien ou pas. D'où la seconde conclusion. Est-ce que c'est si étrange de se trouver face à des machines dont on ne sait pas si elles marchent bien ou pas? Pourquoi ça devrait nous gêner? Alors qu'en fait, On passe notre temps à vivre avec des humains dont on ne sait pas très bien non plus s'ils marchent bien ou pas. Et ça se passe pas si mal. Donc finalement, c'est peut-être ça qui rend si singulier notre rapport à ces nouvelles machines que sont les IA. C'est qu'elles nous rappellent les humains, y compris dans leur manière incertaine de déconner. Merci à Marcello Vitali Rosati. Je recommande évidemment le plus chaleureusement possible la lecture de son livre « Éloge du bug » qui est sorti dans la collection « Zone de la découverte ». À la prise de son, c'était Alexandre Chénet, au mixage Basile Bocquer et Cédric Diallo. Réalisation, Séverine Cassard. C'était Le Code a changé, un podcast original de France Inter.